Voyageant en Amérique, nous traversons Las Vegas, nous filons parmi les pins et les cactus. Comme dans ces mots de l'Amérique au jour le jour de Beauvoir, notre voyage en Amérique continue aussi, mais nous en Amérique du Sud. Après Las Vegas, nous descendons la côte ouest sur le Pacifique. Nous filons jusqu'à la ville-monde que Melville décrivait comme la ville la plus étrange du monde, avec son brouillard blanc. Là, d'où part le train le plus haut du monde, celui qui file vers les Andes, Lima, au Pérou. Lima, ville-monde, première escale. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Lima, la plus étrange et la plus triste cité. Un documentaire de Julien Thèves et Angélique Thibault.
Les gens de Lima ont une personnalité un peu mélancolique ou grise. Ça doit être les climats, ouais. Quand le soleil arrive, on s'est dit, ah, je sais ce que c'était. Je sais pourquoi j'étais pas bien. Et tout le monde sort de sa maison, on a envie de manger des ceviches, des poissons, on va à la plage, on descend à la mer. Dès qu'il y a le soleil, tout le monde est dehors. Tout le monde marche dans les rues, c'est autre chose.
Lima est chaotique. Il y a les combis, tous les gens qui vendent des choses, il y a du bruit, tout le temps du bruit. Pour moi qui viens de Montréal, qui est une ville plutôt tranquille finalement, le contraste est grand. Mais c'est ce que j'aime, le chaos, le joli.
Tu descends dans la rue, il y a du bruit, les boucons. Les cobradores, ça peut être pittoresque. Les cobradores, c'est un personnage. Je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres pays. Dans un bus, il y a celui qui conduit et celui qui t'encaisse. Vas-y, paye-moi. Et comme tout est chaotique, quand les arrêts des bus ne sont pas indiqués, tu dois écouter les cobradores. Il te dit, où tu vas? Et tu peux monter. Ou alors, il te dit, monte, monte, où tu vas? Là-bas, ok, monte. Il y a un dialogue permanent. Tout peut se négocier, c'est discuté. Dans les taxis, avant de monter, tu demandes, tu prends combien jusqu'à là-bas? 20. Bon, alors 15. Ok.
Lima, on peut s'estimer heureux de n'être que triste. Lima n'est pas triste. Lima est doux et accueillant. Lima manque à ceux qui ne voient plus le Pacifique. Lima manque. Le bruit de Lima, le joli chaos est attachant et fait oublier le gris permanent. Parfois, un jour, on ne sait pas pourquoi, il fait beau à Lima et le ciel s'ouvre. Les couleurs s'intensifient, c'est tropical. Le lendemain, c'est gris à nouveau. Un gris qui recouvre tout, on ne sait quand l'été viendra, en janvier peut-être, tout dépend des Niño, tout dépend des courants. Lima, cité étrange et triste aux maisons basses, aux immeubles hauts, cité coloniale et inca, contemporaine et tranquille, animée et dévastée. Une cité de pierre étouffante et compacte, percée de larges avenues, trouée de petits parcs, traversée de grandes artères qui toutes mènent à l'océan ou à la montagne. Lima coincée entre trois infinis, les Andes, le désert et la mer. Cité étrange et triste depuis 1535, fondée sur un cimetière, ville américo-latine au balcon de bois et au quartier chinois. Ville afro-péruvienne qui résonne du son du cajon. À Lima, on survit sur la montagne où on boit des cocktails, face au Pacifique, dans le grand centre commercial accroché à la falaise. Étrange et triste cité qui a pris le voile blanc, qui parfois se déchire. Les surfeurs glissent sur l'eau froide. Les galets roulent et roulent sans cesse sous la vague. Lima n'est plus terrorisée. Lima avance vers le futur. Étrangement, tristement, on dit que Lima est mélancolique mais pas triste. Il ne fait jamais trop chaud, ni trop froid.
Comment ça va? Et tout va bien?
Donc ici, on est sur la Plaza de Armas, c'est vraiment le centre officiel de Lima. Est-ce que vous pouvez nous décrire tout ce qu'on voit autour de cette place? Comment est organisée cette place?
Eh oui, la place, dont, comme les Espagnols, l'habitude qu'ils ont eue, c'était comme au Mexique. Si vous voyez les socles au Mexique, c'est la version locale, non? Dans ce cas, on a tous les pouvoirs concentrés. Dans la Plaza de Armas, on a l'hôtel de ville, que les bâtiments actuels, ça date des années 40, 1940. L'inconvénient de Lima, c'est les tremblements de terre. C'est-à-dire que les bâtiments officiels anciens n'existent presque plus à cause des tremblements de terre. Et par contre, à côté, ce que vous savez, c'est dans la même place, c'est le palais présidentiel. Et nous sommes juste devant la cathédrale de Lima. Et la cathédrale de Lima, c'est la troisième que nous avons. Parce que les deux premières ont tombé à cause des tremblements de terre. On a l'inconvénient de la faille de Nazca. C'est une faille qui touche le continu, que c'est la continuation de la faille de San Andrés aux États-Unis.
Tenemos los llaveritos que valen a 2 soles cada uno. Acá dice Perú. Y vienen 5, te valen 10 soles. Si tú quieres la cultura chimú, si tú quieres la llamita también hay. Que dice Perú, a 10 soles, señor. Son muy lindos recuerdos de acá de Perú. O quiere el dios Nailán, de la cultura chimú. Antiguamente los incas hacían operaciones craneales, señorita. Estilo ceremonial inca.
C'est ici où la ville est fondée en 1535 par Francisco Pizarro. Derrière le palais présidentiel se trouve la rivière. La rivière qui donne le nom à la ville de Lima. Lima s'appelle comme ça parce qu'à son arrivée, ils ont demandé, les Espagnols, quel est le nom de la rivière. Et ils ne sont pas réussi à bien prononcer. Au lieu de dire Rimac, ils ont prononcé Lima. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le quechua, ça veut dire la rivière qui parle. Parce qu'à l'époque, il avait beaucoup d'eau. C'est plus le cas parce que maintenant, si on passe, on peut pleurer. Il n'a plus d'eau parce qu'on dépend de la pluie de la montagne. Et la raison aussi d'être un peu loin de l'océan Pacifique, parce qu'on est à 7 km de l'océan, ici, dans la place d'Armas, c'était parce que, à cause des pirates, les attaques des pirates. N'oubliez pas que les Espagnols, la conquête espagnole, était contre l'Empire Inca, qui était énormément riche. Et ils ont voulu envoyer toutes ces richesses en galion jusqu'à Espagne.
Donc la ville s'appelait la Ciudad de los Reyes.
Oui. La raison de ça, parce que la plupart des touristes qui nous visitent pensent que c'est à cause de les rois de l'Espagne. Mais nous, c'est parce que la ville était trouvée le jour de la Épiphanie, les rois mages. C'est de là qui vient le nom de la Ciudad de los Reyes.
Alors, si on continue le tour à 360 degrés sur la place, ensuite de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit là?
Dans l'autre côté, sont des arcades qu'on a faites pour conserver un peu l'ambiance coloniale. Mais en réalité, tout ça, c'est privé. Hein. Vous verrez aussi qu'il y a des oiseaux noirs. Hein. Ce sont des vautours. C'est à cause de la proximité de la rivière. Hein. Et ils vont manger quelques ordures.
Aujourd'hui, c'est quel temps à Lima, alors?
Aujourd'hui, c'est la fin des printemps. On va vers l'été, que ça démarre le 21 décembre. Mais nous avons un climat complètement inusuel parce que cette année, ça sera le phénomène del Niño.
Llegaré a las orillas del vino y entonces moriré. Moriré.
Adelante.
Voilà. Et on est déjà à l'intérieur de la cathédrale et le style que nous avons, c'est le style néoclassique. Et tout est en bois, on ne dirait pas. Mais les plafonds qu'on est en train d'admirer, si vous voyez un peu, c'est en bois. Et les piliers, c'est en bois et creux dedans, vite dedans, il n'y a rien. Et laisse-moi frapper un peu les murs parce que les gens doutent que ça soit vraiment, mais...
Ah oui,
c'est du bois, c'est du bois. On a décidé de le faire comme ça à cause des tremblements de terre, vous voyez. Comme tout est en bois, c'est interdit les bougies. Ah. On ne peut pas mettre des bougies parce qu'on a peur des incendies.
Donc comment on fait quand on veut...
On ne peut pas.
Honorer quelqu'un.
On ne peut pas, oui. On est très catholique et très pratiquant. 86% de la population est catholique. On est des vrais catholiques. On va à la messe, on se confesse, on fait la communion, C'est-à-dire, on fait plein de processions. Elle est très importante pour nous. Je parle de la Vierge parce qu'elle est la patronne de la Université San Marcos. Et les premiers Espagnols sont arrivés avec les Dominicains. Et les Dominicains, ils ont créé deux choses. Le tribunal de l'Inquisition, que c'était horrible pour nous, et la première université de l'Amérique. C'est de là qu'ils sont sortis les plus grandes personnalités, entre autres les prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, entre autres. On va se déplacer et on va voir un peu un style complètement différent, que c'est le style que... le baroque espagnol. C'est un baroque très, très chargé. Ça, c'est très important, le retable devant lequel on est, devant l'hôtel où on est, parce qu'on a au total 5 saintes péruviennes. Les plus connues, la plus connue de tous, c'est elle, qui s'appelle Saint Rose de Lima, dans la partie centrale. Rosa de Lima. Elle est la sainte la plus vénérée, la plus connue, et comme dans la religion catholique n'avait pas une sainte en Amérique, elle était nommée comme sainte à toute vitesse. Elle était canonisée à toute vitesse. C'est-à-dire que c'est la première sainte de toute l'Amérique, la patronne de l'Amérique et des Philippines.
C'est une vision...
Nous, à Lima, comme je venais de vous dire, on est des métis, mais là où on peut voir la vraie race péruvienne, c'est à la montagne. Et les Espagnols sont faits en conquête qui a duré quand même 3 siècles. Trois siècles, de 1532 à 1821. On était bien marqués. Hein? C'est la raison par laquelle la population parle l'espagnol. On a encore une population assez nombreuse qui parle quechua, la langue des Incas, et on a encore, bien sûr, des différents dialectes. N'oubliez pas non plus l'aymara, que ça se parle sur l'autre plateau.
Est-ce qu'à Lima, il y a des gens qui parlent quechua ou aymara? Est-ce qu'il y a des communautés?
On a 4 millions de gens qui parlent quechua dans tous les pays. C'est une langue très gutturale, difficile à prononcer, mais il y a plein de mots qu'on parle, que les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de s'exprimer en quechua. Par exemple, quand on dit Machu Picchu, que c'est un mot que tout le monde connaît, on est en train de dire la vieille montagne. Et on va aller voir une chose que je crois que ça va être très intéressant pour vous.
C'est un... Qu'est-ce qui est arrivé à l'Inca alors, le dernier Inca?
Ils l'ont tué, à Atahualpa. Vous savez qu'ils l'ont demandé, les Espagnols, ils l'ont mis en prison pendant 8 mois. Et ils l'ont demandé, si voulez-vous sortir, ça suffit de remplir une chambre jusqu'à votre taille tout en or et une chambre tout en argent. Ils l'ont fait, mais malgré tout, ils l'ont tué. Je m'appelle Aurora. C'est mon nom, Aurora, un peu difficile de prononcer pour les Français. Mais vous le savez en français, comment est-ce qu'il faut dire Aurora? Oui, Aurora Tapia Suito. Je suis née ici, mon pays, le Pérou.
On va sortir de la cathédrale,
okay.
Aurora.
Si.
Et on va marcher dans le centre de Lima. Un quartier qui vit toujours, qui est habité par la jeunesse, par les gens de Lima, ou c'est essentiellement touristique?
Il y a très peu de gens qui vivent malheureusement, parce que si on se promène à Lima, on va voir ça. Quelques maisons complètement à l'abandon, oui. Et maintenant, l'État, il est en train de s'en occuper, de mettre en valeur toute cette maison, non? Parce qu'on ne peut pas les laisser tomber en poussière, surtout pas des maisons anciennes comme ça. Les gens viennent surtout à travailler. Ça, c'est la... On est en train de passer devant un des hôtels plus anciens de la ville, qui était monté par un monsieur français, Maury.
L'hôtel Maury.
L'hôtel Maury, regardez. Et on a toute une discussion parce qu'on n'est pas sûr si c'est ici où le pisco sûr est né. Ah, hein? Vous savez que ça, c'est l'apéritif national de mon pays, que c'est l'apéritif... on a la fierté de vous dire que le pisco, c'est l'alcool national du pays. C'est à base de raisins blancs. On fait une distillation dans un alambic comme la cognac. Goutte à goutte, vous voyez, c'est un alcool fort à 42 degrés, mais on fait un cocktail avec le citron vert, avec le blanc d'œuf et le sucre du canne.
Trois parties de pisco. una parte de jarabe de goma, una parte de limón y un tercio de clara de huevo. ¿Estamos? Y aproximadamente la onza de limón, ¿no?, que le tenemos que echar, son 3 limones. El jugo de 3 limones. Y gotas de amargo angostura. Eso es. Un pico de agua.
Ese es el tema. No sé mucho, pero...
La llave del 801 donde alquilado la señorita Isabel Echeandía. Buenas. Hola, llamo de parte de Isabel Echeandía, que me dijo que me podían dar las llaves acá del 801, que lo acaba de alquilar. Yo soy Juan Manuel Bermúdez, soy su tío. Ok, gracias.
Pasen, 802.
¿Dónde está el ascensor? El mar en realidad está para allá. Ese es el oeste, donde no ves nada. Ahí comienza el
la mer
este.
En realidad es para
allá. Esa montaña.
Là, c'est l'ouest.
Esa montaña.
Où tu ne vois
a
rien.
La siguiente es el Cerro San Cristóbal.
Où tu ne vois rien. L'est commence ici, à partir de cette montagne. La suivante, c'est le Cerro San Cristóbal.
Ese es el paisaje recurrente. ¿Ven todos los tanques de agua, esos pequeños de ahí?
Voilà le paysage habituel. Tu vois ces petits réservoirs d'eau, ces petits cylindres? Ils couronnent toute la vue.
Il y a beaucoup de télévisions urbaines.
Des antennes, oui.
Non mais de grands écrans lumineux.
Son parte de una gran contaminación visual ahora. Estamos en la era del LED.
Des panneaux publicitaires. Ils font partie d'une grande contamination visuelle. C'est l'époque du LED. Cet édifice horizontal que tu vois ici, c'est la sécurité sociale de Lima, du Pérou. L'hôpital principal de la sécurité sociale. J'y suis né, ainsi que beaucoup d'autres gens, des millions. Le quartier s'appelle Jesús María.
À este lado, San Isidro. Comienza todo esto.
De ce côté commence San Isidro. Ici, l'avenue Javier Prado, qui connecte l'est et l'ouest de la ville. Il y a beaucoup de quartiers aisés vers l'est. Ce gratte-ciel là-bas, c'est la Banque de la Nation. Là-bas, sur la montagne, il y a des quartiers aisés et d'autres non. Avant, descendu de la colline, ça voulait dire que tu arrivais de province, que tu n'as pas d'argent, pas d'opportunités. Mais il y a aussi des gens qui vont vivre sur la colline parce que c'est comme être sur les hills, comme dans ce quartier chic qu'on appelle Las Casuarinas. Viens par là, pour que tu vois. Viens. Tu vois ? Au fond, on voit la croix du Cerro San Cristóbal. Depuis Javier Prado jusqu'à là-bas, tout ça, c'est le centre financier. Les principales banques, les hôtels, les entreprises, les compagnies d'assurance, toute la spéculation. Le nid de la spéculation est là.
Donc le Pacifique est derrière, ne se voit pas.
Oui, là-bas.
Mira. Tout ça, c'est le Pacifique, hacia allá.
Tout ça, c'est le Pacifique. Jusque là-bas. Tu ne vois pas une seule montagne. Tout derrière, jusqu'à là-bas.
D'accord, tout à fait vers l'ouest. Et devant nous, en fait, ça fait comme une muraille de banque.
Comme une muraille de banque, oui. là-bas, les montagnes continuent. Surco, Monterico, les quartiers aisés, les quartiers riches. Derrière, les quartiers pauvres.
Esta es una azotea. Típica azotea de Lima. La corona, el tanque de agua, para ofrecer el suministro de todo el día por la potencia que no llega al ser un desierto.
Ça, c'est une terrasse typique de Lima, avec le réservoir pour alimenter en eau les habitants. Tout en eau, tu vois.
Ahora, por acá, solo
alors par là-bas, certaines ont les colonnes de construction.
Ves las columnas en la de allá que está construcción? ¿Ves?
Ah oui, parce qu'un jour, cette maison va être surélevée.
Oui, mais là-bas, non.
Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas crescer.
Et vous voyez là-bas, non. C'est des familles qui avaient de l'argent, qui n'avaient pas une culture familiste trop développée, d'origine européenne, pas andine. Le proprio s'est dit, si mes enfants veulent un appartement, qu'ils fassent construire ailleurs.
Et les familles ont combien d'enfants en général?
Ouh là là, oublie, il n'y a pas de maximum.
Nous sommes 5. Somos cinco. Yo soy el último de todos.
Nous, on est cinq enfants. Je suis le petit dernier. Je suis le seul qui est né à Lima. Ils sont tous de la province, de la Sierra. Je suis le seul de Lima.
Creo que por eso es una de las razones de mi particular relación con esta ciudad.
C'est pour ça que j'ai cette relation si particulière à la ville.
Me he querido ir muchas veces. Muchas veces.
J'ai voulu en partir très souvent.
Muy lejano,
je vivais dans un quartier très lointain qui s'appelle Chaclacayo.
Montañas, las de
et
allá.
Qui est derrière ces montagnes.
Detrás, está muy lejos.
Celle de là-bas.
Et yo estudiaba en el centro de la ciudad, en la Escuela Nacional de Teatro.
Et moi j'étais élève au centre-ville, à l'École Nationale de Théâtre, qui est gratuite.
Yendo todos los días por dos horas en combi. Ya saben lo que es combi. Son esas
je mettais deux heures par jour pour y aller, en combi.
No
tu sais ce que c'est les combis? Ces bus fous qui ne respectent pas la loi et où les gens sont serrés comme des sardines. Deux heures aller, deux heures retour.
En ir a estudiar hasta el centro de Lima desde allá. Esas fechas yo decía, ¿cuándo me voy de esta puta ciudad? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo me voy?
Jus de la campagne autour de Lima en 1861.
C'est para un reportaje sobre Lima.
Ça, c'est très intéressant pour un reportage sur Lima. C'est l'un des rares paysages du Pérou au 19e siècle. À cette époque, on ne peignait pas des paysages, comme d'ailleurs dans une grande partie de l'Amérique latine. Car les paysages sont en réalité une tradition de l'Europe du Nord, qui se développe aux États-Unis au XIXe siècle via la Grande-Bretagne. Ce tableau est d'un peintre américain qui a séjourné à Lima. Mais au Pérou et en Amérique latine, durant la majeure partie du XIXe siècle, les paysages n'existaient pas.
Juan Manuel Bermudez. Artiste. Quel est le caractère de l'habitant de Lima, son énergie, sa personnalité?
Nous sommes très divers. Nous sommes le produit de beaucoup d'immigration. Du coup, on est toujours en alerte. Je crois que ça, c'est un point commun. On marche avec les yeux derrière la tête.
À la casa de oportunidades en todo sentido.
Et on est toujours en quête d'une opportunité, c'est ça.
Tiene este del Papa, después tiene este que es de todo el año, guairuda para la mano.
¿Qué es?
Para ponerse guairuda. Y después acá tiene del más grueso también, si que desea. La cartera también. ¿Tres soles?
¿Tres?
Sí.
Donc, bonjour, vous êtes Natalia Maliouf, vous êtes la directrice du Mali, le musée d'art de Lima. Nous sommes à l'intérieur du musée, au premier étage, dans un grand salon. Et on est au cœur du Parque de la Exposición, c'est ça? Donc ça a été, ce musée date de l'époque de l'exposition universelle à Lima.
Era un complejo urbano muy grande, un gran parque.
C'était un vaste complexe urbain, un grand parc.
El crecimiento, la falta de planificación urbana a llevado.
Avec les temps et la croissance désorganisée de la ville, le parc a rétréci.
Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est un petit parc qui est pris dans le chaos de la ville. On a mis 45 minutes pour arriver, il y a des travaux, on est au cœur de Lima aujourd'hui. Et le parc, il est vraiment... On peut pas dire... Enfin, c'est une petite oasis de verdure, mais il y a quand même beaucoup de bruit, on l'entend, de trafic, de chaos autour.
Et estamos en medio del parque, pero este parque ahora se ha convertido en más de un sentido en el corazón de la ciudad.
Nous sommes au milieu du parc. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi au cœur de la ville. C'est le croisement des principaux axes de communication. La ligne 2 et la ligne 3 du nouveau métro de Lima vont se croiser ici.
Peut-être aller voir du coup une œuvre du musée qui vous paraît particulièrement signifiante.
Vamos a ver un ratito ahí las cosas y yo vengo ahora.
On va voir un peu les choses et je reviens.
José
Gil de Castro, le peintre des libérateurs.
Simon Bolívar.
Simon Bolívar, il a les yeux, il a une moustache, des favoris, des yeux un peu exorbités. Il a un peu un regard de fou.
Ça, c'est les funérailles d'Atahualpa.
C'est très impressionnant. Donc, c'est un tableau de très grande dimension. Donc, on est en quelle année là? L'Inca est allongé sur son lit de mort. Entouré des Espagnols, des conquistadors.
El cuadro se basa en un pasaje de la historia de la conquista del Perú.
Le tableau décrit un épisode de l'histoire de la conquête du Pérou, tel qu'elle a relaté par William H. Prescott.
Las mujeres del Inca entran.
Prescott raconte comment les femmes de l'Inca entrent pour empêcher la cérémonie, pour demander à être enterrées avec l'Inca. Et les Espagnols les retiennent.
Ces femmes devaient le suivre dans la mort, en fait.
Se supone. Es parte de esta ficción también.
On suppose, ça fait partie aussi de cette fiction.
Y esas las tres razas. Ahí hay.
Et voilà les trois races. Il y a un enfant, à son costume, on comprend que c'est le fils du maître de maison.
Jugando las cartas con una niña indígena y con una mujer de ascendencia.
Il joue aux cartes avec une enfant indigène et une femme d'origine africaine. Les tableaux s'appellent les trois races ou l'égalité devant la loi.
Ici, nous sommes à Chorrillos, avec toi, Cecilia Larrabure, photographe.
Ma famille vient du Pays Basque français.
Ouais, je vois. Donc, Chorrillos, ce quartier où tu nous réunis aujourd'hui, c'est un quartier de plage, c'est près de la mer, il y a des palmiers, des bougainvillées, c'est très joli.
Sí, es un barrio muy antiguo. Antes estaba, era como el barrio, el balneario de Lima cuando la ciudad era quedaba solamente en el centro histórico, ¿no?
C'est un quartier très ancien. Avant, c'était la plage de Lima quand la ville était cantonnée au centre historique. Il y a de ça une centaine d'années. J'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'amis qui vivent ici. C'est un quartier très bohème. Il y a beaucoup de peintres, de sculpteurs, de photographes. Il y a la plage donc, tu peux descendre à pied et remonter à pied, c'est très facile. La remontée est un peu fatigante parce que c'est très escarpé. Mais c'est tellement proche, c'est facile. Chorrillos a gardé son ambiance familiale et traditionnelle. même si ça, ça a grandi et ça a beaucoup changé.
Donc tu es péruvienne mais avec des racines basques.
Des racines basques et des racines celtes parce que ma mère était la fille d'une écossaise. Ma grand-mère maternelle était écossaise. Donc je suis un mélange très explosif, basque et celte.
Tu as les yeux bleus, tu as les cheveux blonds.
Oui, je n'ai pas l'air très péruvienne, mais je le suis. Je dis souvent que j'ai une âme chola, dans un emballage gringo.
Une âme comment ?
Chola. Chola, c'est un mot affectueux pour parler des Péruviens. Nous, les Péruviens, on dit qu'on est cholos, cholitos. C'est affectueux, tu vois. Donc c'est assez difficile de décrire un Péruvien typique, parce qu'il y a de tout. Par exemple, moi, j'ai la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux clairs. A priori, je n'ai pas l'air péruvienne, mais je suis très péruvienne. Et je suis mariée avec un homme qui vient des Andes, qui est très mat de peau, très cholo. Et nous avons une fille avec mes cheveux clairs et très mat de peau. Il y a beaucoup de gens ici qui ont l'air asiatiques. Il y a des Chinois, des Japonais. Ce sont deux communautés très importantes qui se sont établies ici il y a très longtemps. Donc nous sommes un pays avec un mélange de races très important.
Voilà.
Ce sont des personnes qui viennent de la montagne et qui sont habillées avec un vêtement traditionnel. C'est l'argent de Puno. C'est selon la forme de son chapeau qu'on est capable de dire de où est-ce qu'il vient. C'est un venu en quoi ?
En bus ? Sí, en bus.
¿Cuántas horas?
12 horas nosotros. Ellos han venido 24 horas.
12 et 24 heures pour se déplacer depuis le petit village. 12 et 24 heures.
Avec ses couleurs très très vives.
Il y a beaucoup d'autorités qui, quand ils demandent l'attention, ils reçoivent nous attendent.
Mucha suerte. Mucha suerte en su gestion.
Gracias.
Et maintenant, on va. C'est. Si, c'est presque l'heure de la relève. Hein. Oui, on va y aller. Ça, on ne peut pas manquer de voir ça. On va traverser par là. Dans le même chemin, on va passer devant l'ancienne gare, la gare centrale. Ce chemin de fer était le premier chemin de fer de toute l'Amérique du Sud, partait de Lima. Et les trains qui partaient d'ici, on est maintenant à 155 mètres d'altitude. Et les trains qui partaient de cette gare montaient en 4 heures à presque 5000 mètres d'altitude.
Vous avez lu le Temple du Soleil, Tintin,
ah,
le Temple
oui,
du Soleil.
Oui, tout à fait, c'est le même.
C'est le même
c'est
train,
le même. C'est un chemin de fer extraordinaire parce qu'il était fait, imaginez-vous, sur la cordillère. Il y a des cas où on passe par une sorte de pont suspendu entre deux montagnes. Il y a 61 tunnels à traverser. Il y a pas mal de... On voit déjà... Et la montagne tout de suite.
On la voit depuis.
Si, si. C'est-à-dire que ce sont les premiers contreforts de la cordillère des Andes. Et c'était la fameuse relève de la gare devant le palais présidentiel. Et ils ont l'habitude de faire, à midi moins le quart, ça démarre l'orchestre. Avec la musique, normalement c'est la musique de la côte et normalement dans ce cas c'est la marinera, que c'est une danse qu'on couple, c'est la danse nationale du pays. Et après c'est la musique de la montagne, que normalement c'est avec la flûte de pan, vous voyez, et on l'appelle huayno. Et après un peu la musique de la forêt amazonienne. Nous n'avons pas eu dans ce cas la forêt amazonienne, mais en compensation on a eu le condor passa. C'est notre chanson locale. Ouais.
plaza con la minivan. Tienes que llegar a San Francisco y quédate con tu taxi que lo vamos a necesitar.
Antoine Georges, spécialiste de la musique afro-péruvienne.
On va à Malambo. Tous les trois, vous vous baladez là-bas. Enfin, tous les quatre, on se balade là-bas. Se promener, c'est un peu difficile. Hein. C'est le seul quartier noir qui est resté après la colonie. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient un moment de libre ou que les maîtres partaient ou qu'ils se retrouvaient entre eux? Ils sortaient les cajones, les tiroirs, et ils tapaient sur les tiroirs pour faire les percussions. Voilà. Parce que si on les attrapait en train de faire de la musique du diable, on leur coupait les mains.
Si, Jorge, poquito.
Buenas tardes. Vamos a ir al RIMAC del otro lado.
Al RIMAC,
si. Hay que seguir allá. Voilà, là on traverse le RIMAC.
Et c'est juste de l'autre côté du RIMAC. C'est voilà. Juste à côté du centre historique. En
fait. Voilà, c'est juste à côté. Mais là on change
d'un autre monde. En fait.
Mais on passe le pont, on change de monde là, complètement. Et là on est de l'autre côté du RIMAC, on est à Malambo. Malambo, là c'est vraiment. C'est un quartier très très populaire, c'est un quartier pauvre. C'est les quartiers où les gens vivent dans ce qu'on appelle en espagnol callejón de un solo caño. Le callejón de un solo caño, c'est juste une allée avec les petites maisons sur les côtés. Il y a juste un robinet. Pour tout le monde.
Ouais, yo lo aviso quand on sale.
Si, faut cacher ça, mais bon,
quand sale ma bonne amie, ahí no problema. Ok?
Negro Chaveta, c'est une légende, le noir Chaveta. C'est une légende, Chaveta, ça veut dire couteau. Mais c'est surtout des cajoneadores, des joueurs de cette percussion en bois péruvienne qu'on va voir. Voilà. Pour l'instant, on ne descend pas. C'est ici, le maître, le guide, c'est Hugo. Parce que c'est son quartier, c'est là où il a grandi. Lima, au XVIIe siècle, les deux tiers de la population étaient noirs. C'était une ville noire.
Je pense qu'on peut sortir.
Pedro Ascuez. Pedro Ascuez. Il est le fils d'Augusto Ascuez, qui était un grand, grand musicien de noir limeñien dans ce quartier.
Maestro, mucho gusto. Un gusto conocerlo.
Vamos entrando.
Uy, se ha caído la tapa.
Ya.
Hola.
Todo tocado.
Pasen.
Ya, ok. Entonces hacemos espacio. Muchachos, vamos un ratito, vamos a hacer espacio para empezar nosotros primero.
Por favor, ahorita tenemos. ¡Oye, oye, oye!
¿Estás en mi barrio? ¡Ven! ¡Oye! ¡Cero! ¡Está quedando en cero!
Momento y para la música, muchas gracias.
Sí. Buen momento.
Ya, sí, gracias también.
Vamos a tocar.
ce qui, tous les dimanches après-midi, émande vers le parc Salazar les Miraflorins de moins de 20 ans, exerce son pouvoir sur eux depuis longtemps. Ils ne sont pas étrangers à cette foule, ils en font partie. Ils sont bien habillés, parfumés, ils ont l'esprit en paix, ils se sentent en famille. Ils regardent autour d'eux et ne rencontrent que des visages qui leur sourient, des voix qui leur parlent dans un langage qui est le leur. Ce sont les mêmes visages qu'ils ont vus mille fois, à la piscine du Terrazas, sur la plage de Miraflores, à la Herradura, au club Regatas, au cinéma Ricardo Palma, l'Euro ou Monte Carlo. Mais non seulement ils connaissent les traits, l'épiderme et les gestes de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui avancent comme eux vers le rendez-vous dominical du parc Salazar. Ils sont aussi au courant de leur vie, de leurs problèmes et de leurs ambitions. Ils savent que Tony n'est pas heureux, en dépit de la voiture sport que son père lui a offerte à Noël, parce qu'Anita Mendiasabal, la jeune fille qu'il aime, est fière et coquette. Tout le quartier de Miraflores s'est miré dans ses yeux verts que bordent de longs cils de soie. Ils savent que Vicky et Manolo, qui viennent de passer près d'eux en se tenant par la main, ne s'entendent que depuis peu de temps, une semaine à peine. Que Paquito souffre d'être la risée de Miraflores, avec sa bosse et ses furoncles. Que Sonia partira demain pour l'étranger, pour longtemps peut-être, car son père vient d'être nommé ambassadeur, et qu'elle est triste, à la perspective de quitter son collège, ses amis et ses leçons d'équitation.
Si. Hola, estamos de la radio francesa. Tenemos una cita con el señor Cuperiosa.
¿De radio francesa?
Si.
A ver, voy a ver.
Buenos días. ¿Qué pasa
usted? Hola, señor. Hola.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Merci.
Frédéric Cuperiosa, architecte.
Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison absolument magnifique, incroyable.
C'est une vieille maison qui subsiste encore.
On est entré dans le quartier de San Isidro et on a eu l'impression que la ville se transformait, qu'elle devenait soudain beaucoup plus organisée, avec beaucoup de végétation. On a entendu les oiseaux.
Es un barrio de la gente rica. Yo no soy rico, pero
c'est un quartier de riches. Moi, je ne suis
San
pas riche.
San Isidro era una finca, como eran todos los alrededores del centro de Lima hasta más o menos 1930. Un presidente del Perú que se llamaba
San Isidro était une finca, une grande propriété, comme tous les alentours de Lima jusqu'en 1925-1930.
Para que conectaran al centro de Lima con unos pueblos.
Un président du Pérou qui s'appelait Augusto Leguía construisit des grandes avenues pour raccorder le centre de Lima avec certains villages. Leguía fit un boulevard de Lima jusqu'à Chorrillos, à l'extrême sud de la ville.
El pueblo de Miraflores, que ya era un pueblo, era un pequeño pueblo al lado del mar.
Miraflores était déjà un village du bord de mer, prisé par les Anglais à la fin du 19e siècle et au début du 20e.
A finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Más hacia el sur estaba Barranco, que era una,
plus au sud, il y avait Barranco, qui était un quartier plus pauvre, mais qui avait une plage.
Pobre,
et ensuite, il y avait Chorrillos, qui était Lima plage.
Y después venía Chorrillos, que era
en
el
été,
de Lima.
Les gens qui vivaient au centre de Lima, entonces, les gens aisés, verano, s'en allaient en train jusqu'à Chorrillos.
La gente se iba, que vivía en el centro de Lima, bueno, me refiero a la gente acomodada, se iba en tren.
Ils avaient leur maison là-bas, sur le malecón de Chorrillos. Et ils descendaient à la plage, sur une plage très jolie.
Ahora se llama Agua Dulce, porque el mar era muy calmo y muy tranquilo. Entonces, la primera
urbanización on appelait Agua Dulce, parce que la mer est très calme et très tranquille.
De la ruta hacia el sur, desde el centro de Lima, fue San Isidro. Aquí no muy lejos hay un olivar precioso que tiene 600.
La première urbanisation fut San Isidro. Pas loin d'ici, il y a une oliveraie magnifique qui a 400 ans, avec des arbres vraiment très vieux et assez bien entretenus.
Más o menos en un estado de crecimiento lento, pero firme.
Tout ça a évolué lentement, mais sûrement, jusqu'aux années 50, quand la chaîne de grands magasins nord-américains que vous connaissez, Sears, décida d'implanter un grand magasin ici, à San Isidro. Pas dans le quartier, mais vers l'est, où il y avait encore des terres agricoles. Du coup, San Isidro a grandi vers l'est. A dévoré toute la terre agricole. A dévoré deux aéroports. L'aéroport de Lima était là-bas.
Ay, caramba, si lo acabo de apagar.
Voilà, en gros, l'histoire de San Isidro.
Vous avez peur de... Bon, il ne fait rien. Sauf qu'il veut entrer à la maison, mais il ne peut pas. Viens là.
Oye, no fastidies, ¿eh?
Mais ils sont surtout les gardiens de la maison, parce que...
Vous avez aussi une piscine, mais que vous n'avez pas rempli. Vous n'avez pas utilisé la piscine,
Pas maintenant, parce qu'on l'utilise en été.
Ouais. Bon, votre jardin est très très beau, en tout cas, très luxuriant. Vous n'êtes pas habitué à avoir autant de végétation à Lima.
Autre chose de San Isidro...
Autre chose sur San Isidro. Dans cette partie de San Isidro qui est au sud de l'Olivret,
les ingleses, en los años 20, construyeron aquí todos sus recursos deportivos.
Les Anglais ont construit dans les années 20 toutes leurs installations sportives. Ils ont fait le golf, le country club avec l'hôtel, ils ont fait un club de cricket qui est un peu plus bas, et ils ont fait l'hippodrome.
Tout cela... L'Angleterre. Yeah.
Derrière eux, sur le Malecón, passait une file ininterrompue de voitures. À mesure qu'ils se rapprochaient de l'objectif, ils devenaient plus audacieux. Ils percevaient, très proche maintenant, ce bruit particulier qui, la nuit, parvenait jusqu'à leur lit, à Miraflores, et qui était un tintamarre d'eau et de pierre. Ils avaient dans les narines cette odeur de sel et de coquillages immaculés. Et bientôt, ils se trouvaient sur la plage. Minuscule éventail entre la falaise et la rive, et ils y demeuraient entassés les uns sur les autres, plaisantant, se gaussant des difficultés de la descente, faisant semblant de se pousser au milieu d'un grand vacarme joyeux. Quand la matinée n'était pas trop froide, ou qu'il s'agissait d'un de ces après-midi où inespérément un soleil tiède fait son apparition dans le ciel de cendres, Alberto quittait ses souliers et ses chaussettes, et encouragé par les cris des autres, les pantalons retroussés au-dessus des genoux, il sautait dans l'eau froide. Il sentait sous ses pieds la surface polie des cailloux. Tenant ses pantalons d'une main, de l'autre il aspergeait ses camarades qui s'abritaient mutuellement, jusqu'au moment où à leur tour ils se déchaussaient, allaient au-devant de lui, le mouillaient et la bataille se déclenchait.
Más que calificarla, me gustaría tal vez soñarla. Me gustaría pensar que esta es una ciudad que está caminando hacia encontrar su propia identidad, que es algo que todavía es una tarea pendiente. Yo diría que Lima es una ciudad por hacer aún.
Plutôt que qualifier Lima, j'aimerais rêver Lima. J'aimerais penser que cette ville avance vers la rencontre avec sa propre identité et que c'est un travail en cours. Je dirais que Lima est une ville à venir.
Le ciel est gris 7 mois par an et bleu 5 mois par an. Quelle nuance de gris peux-tu décrire? Du blanc au noir et aussi le bleu. Est-ce que tu peux parler du bleu qu'on voit en face de nous, par exemple, aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Quand on révise la littérature péruvienne, on s'aperçoit qu'il y a 100 ou 150 ans de tentatives pour décrire le ciel de Lima. On dit parfois ciel souris, ciel ventre d'âne. En revanche, quand on voit Lima, on s'aperçoit que c'est une ville très nombriliste, très centrée sur elle-même et très distante.
En cambio, quand on voit Lima,
Jerónimo Pimentel, auteur journaliste.
Quand les voyageurs étrangers arrivaient, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, détestaient Lima. On retrouve dans leurs correspondances des phrases très sévères sur cette ville. Parce qu'en tant qu'Européens, ils ne rencontraient pas à Lima ce qu'ils espéraient y voir. Au XIXe siècle, c'était une ville très européanisée, très à distance de la culture locale et qui aimait cette distance.
Je crois qu'il y a un surnom, Lima la Fea.
sí, Lima l'horrible. El gran escritor Sébastien Salazar Bondy.
Le grand écrivain Sébastien Salazar Bondy a écrit un essai définitif qui s'appelle Lima l'horrible, dans lequel il analyse le déphasage entre l'idée que les Liméniens avaient de leur ville et ce qu'était la ville en réalité.
Horrible,
bien sûr, parce que quand on voit Arequipa, Cusco ou d'autres villes du Pérou, on voit des rues enchanteresses, des pavés, des grandes maisons en pierre, avec une architecture d'époque.
Alors
qu'à Lima, on n'en a pas parlé. Tous les 200 ans, il y a un grand tremblement de terre. Cette succession de tremblements de terre avec la ville s'est reconstruite constamment.
Quand on va au centre historique de Lima, on voit une certaine architecture.
Au centre de Lima, il y a une certaine architecture, mais ce n'est pas celle des conquistadores. Il y a quelques belles maisons qui restent, mais ce qu'on voit, ce sont les reconstructions de Lima de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et quand on voit le reste de la ville, on ne voit pas ces maisons de pierre, ni le reste de la culture préhispanique. Non. Il y a quelques huacas qui restent, comme la Huaca Pucyana. Sur la place d'Armes, il y a un hommage à Tahuli Chusco. On ne trouve pas beaucoup plus. C'est une ville un peu plus neuve, ou constamment neuve. Et l'origine est un peu perdue.
Dans l'ensemble, ce n'est pas non plus le souvenir de ces tremblements de terre ébranleurs de cathédrales, ni les ruées de ces mers frénétiques, ni l'absence de larmes de ces cieux arides qui ne laissent jamais pleuvoir. Ce ne sont pas simplement ces choses qui font de Lima sans larmes la plus étrange et la plus triste cité qu'on puisse voir, mais que Lima ait pris le voile blanc. Et rien n'égale en épouvante la blancheur de son affliction. Ancienne comme Pissarro, sa blancheur préserve pour toujours la jeunesse de ses ruines. Elle ne consent pas à la joyeuse verdeur du déclin accompli, mais étend au-dessus de ses remparts ébréchés la pâleur rigide d'une apoplexie qui fixe ses contorsions intimes.
Et quand nous terminons d'accepter notre culture préhispanique, notre culture andine, quand nous terminons d'harmoniser à nos...
Quand on aura fini par accepter notre culture préhispanique et notre culture andine, quand on aura fini d'harmoniser nos migrations, disons non originaires, qui sont nombreuses, on pourra commencer à parler d'une ville en soi, qui ne soit ni triste, ni laide, ni horrible, ni grise, et qui est unique et qui est à venir. Ne perdons pas l'espoir que cette ville nouvelle fleurisse ou prospère. Le pays dans lequel j'ai grandi était beaucoup plus pessimiste qu'aujourd'hui. Quand j'ai grandi, dans les années 80, l'inflation était à 2000%. Les prix changeaient tous les jours. Pour que vous ayez une idée d'à quel point c'était catastrophique. Les prix ne changeaient pas seulement tous les jours, mais toutes les heures. Le pain que tu achetais pour le petit déjeuner à 8 heures du matin affichait un prix différent à 4 heures de l'après-midi quand tu voulais déjeuner. Nous vivions dans une ville punie par la violence politique du Sentier Lumineux et du MRTA, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Il y avait aussi beaucoup de violence anti-subversive de la part de l'État également. D'après la Commission de la Vérité, cette guerre a fait 69 000 morts.
Quand tu sortais à la rue en 1980, tes parents te disaient:
dans les années 80, quand tu sortais dans la rue, tes parents te disaient dans quel endroit ne pas aller. Je vivais à Miraflores, il y a quelques numéros de mon immeuble, il y a eu l'attentat de la rue Tarata. Un tout petit peu plus loin, l'attentat contre l'hôtel Maria Angola. Et à trois blocs, l'attentat contre l'Institut de la Liberté et de la Démocratie, dirigé par le libéral Hernando de Soto. Avec trois voitures piégées autour de chez toi, tes parents te disaient de ne pas sortir.
Une sorte de tape pour que quand se détruisent, parce que se esperaba que se destruyeran,
Toutes nos vitres étaient couvertes d'une sorte de scotch pour ne pas blesser les passants en cas d'explosion. On était tous entraînés aux premiers secours.
Non, primeros auxilios, pero cuando había un coche bomba, uno tenía que tirarse al suelo y abrir la boca
para. Et quand il y avait une voiture piégée, il fallait se coucher au sol et ouvrir la bouche pour que nos tympans n'éclatent pas. Si tu éduques tes enfants à ça, c'est une société de guerre. Et c'est celle dans laquelle j'ai grandi.
Se va a encontrar a pocos kilómetros un lugar que es un museo que se llama el lugar de la memoria.
Si tu suis la côte vers le Callao, tu vas rencontrer dans quelques kilomètres un musée qui s'appelle le lieu de la
mémoire.
Pour se souvenir des années terribles de la violence politique dans les années 80. Ce qui se dit, c'est que le sentier lumineux est responsable de plus de la moitié des victimes.
Más del 30% de ellas fueron responsables del Estado peruano.
Mais plus de 30% est dû à l'État péruvien.
Abimael Guzmán, que fue la cabeza, ¿no? Abimael Guzmán, es una historia que
Abimael Guzmán dirigeait le sentier lumineux.
Abimael Guzmán ahora está recluido en la base naval que construyó especialmente para él Vladimiro Montesinos.
Il est aujourd'hui emprisonné à la base navale que construit spécialement pour lui Vladimiro Montesinos, bras armé de la dictature d'Alberto Fujimori.
La ironía es que cuando cae la dictadura de Alberto Fujimori,
ironiquement, quand la dictature d'Alberto Fujimori est tombée, ils ont capturé Vladimiro Montesinos, qui était responsable de terribles atrocités. Et il est aujourd'hui enfermé dans la base construite pour Abimael Guzmán. Et les deux sont enfermés là.
Et Fujimori.
Ahora, no hay que perder de vista que su hija, Keiko Fujimori, tiene la mayor intención.
Non, Fujimori a une autre prison, sous d'autres conditions moins sévères. Il est le responsable indirect de divers crimes et il est aujourd'hui en prison. N'oublions pas que sa fille, Keiko Fujimori, est en tête des intentions de vote aux prochaines élections. Beaucoup pensent qu'en juillet, si elle gagne, il sera acquitté.
Keiko Fujimori, le Parti Popular, lidera le processus électoral en Pérou, avec un 39,2% de los votos.
Le sigue
Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos.
Menospreciar sus esperanzas y sueños.
Effectivement, nous encontramos disfrutando de esta fiesta política.
Villemont Lima, un documentaire de Julien Thève et Angélique Thibault. Avec Natalia Marlouf, directrice du Mali, le musée d'art de Lima. Jerónimo Pimentel, auteur et journaliste. Antoine Georges et Catalinos, amoureux de la musique afro-péruvienne. Hugo Bravo, percussionniste, Coco Vega et Negro Chaveta, joueur de cajón. Juan Manuel Bermudez, artiste. Aurora Tapia, guide. Vanessa Hué, blogueuse. Danitze Palomino, chanteuse. Frédéric Coupeuillosa, architecte. Cécilia Larabourre, photographe. Prise de son Thomas Robin, mixage Claude Nior. Lecture Moby Dick, Herman Melville, La ville et les chiens, Mario Vargas Llosa. Traduction Aïda del Solar, Gourmand Cloâtre, Valentin Frutier. Remerciements Ambassade de France à Lima, Office du tourisme du Pérou, Marina Dupuy-Wed. Coordination, Catherine Libert.
Portrait de la ville en artiste, entre ville réelle et ville imaginaire, ville rêvée, escale seconde bientôt, Lima, la ville dont je rêvais. Parole à l'imagination tout le week-end prochain avec France Culture au Centre Pompidou. Imagine le grand week-end de la création et des idées. Dimanche 5 juin, de 14h à 16h, France Culture sera en direct du Centre Pompidou pour une émission spéciale d'autres histoires de l'art. Donc retour à Lima, Ville-Monde, seconde escale, le dimanche suivant, 12 juin à 15h. Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter toutes nos escales à travers le monde en podcast éternellement. Et dans quelques instants, les racines du ciel.